La Bourse de Paris et la Bourse de Francfort ont tous deux terminé en hausse de 1,47%. À suivre sur RFI. Décryptage. Très bonne journée.
Radio G. Just wanna tell you. 101.5 FM.
Tu as entre 18 et 40 ans? Tu veux agir sur ton territoire aux côtés d'autres citoyens motivés? Tu veux mener des projets sur des thématiques aussi variées que le handicap, l'écologie, la parentalité, le sport et bien d'autres? Bienvenue à la Jeune Chambre économique d'Angers et sa région. Viens découvrir l'association le 12 février en plein cœur d'Angers.
Rejoins-nous pour mener des projets citoyens, monter en compétences et faire des rencontres. Pour participer à notre soirée découverte, inscris-toi dès maintenant sur jciangers.com ou sur nos réseaux sociaux. Passe à l'action, rendez-vous le 12 février pour découvrir la Jeune Chambre économique d'Angers et sa région.
C'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présentée par Pierre Benoît.
Et oui, ça y est, le jeudi, c'est mon jour, c'est le seul jour de la semaine où je peux enfin prendre la place qui est la mienne normalement, mais que Nolwenn me subtilise depuis quelques temps désormais. Rassurez-vous, Nolwenn va très très bien, elle est juste en week-end, elle prend des grands week-ends. On la reverra lundi prochain pour justement accueillir nos invités de la semaine prochaine. On sera dans une semaine très partenaire, puisque lundi nous serons avec la salle culturelle des Hauts de Saint-Aubin, partenaire de l'émission, donc nouveau partenariat de 2025. Mardi, on sera avec le théâtre de l'hôtel de ville de Saint-Barthélemy d'Anjou. Mercredi, le CCJC. Est-ce que tu sais ce que c'est le CCJC, toi, Camille?
Non, perso, ça me dit rien.
Ben oui, c'est le centre culturel Jean Carmet de Mur-Hérigny. Et les D'accord. fidèles auditeurs et auditrices de l'émission le savent. Et jeudi, on sera avec des invités qui viennent tout droit de WeForge. Ce soir, nous sommes avec Tania et Benoît, membres fondateurs de LASER, l'association de zététique pour un écologisme rationnel. L'art de cultiver le scepticisme, tant que les preuves scientifiques ne sont pas suffisamment solides pour émettre un jugement, le tout appliqué à des sujets qui gravitent autour de l'environnement. On donnera des précisions tout à l'heure encore plus consistantes. Gravitant comme la Terre autour du Soleil? Peut-être, oui, a priori en tout cas, car la zététique ne semble pas être dans une sphère conspirationniste. Attention, faut pas faire d'amalgame. Et justement, Tania et Benoît pourront nous en dire un peu plus tout à l'heure. On parlera aussi de leur soirée L'Esprit Critique le 22 février prochain. Bonsoir Bruno.
Salut.
Qu'est-ce que tu fais avec ton appareil photo là?
Non, mais ça c'est pour toi, c'est pour
Ah après. Oui, ça c'est en off, fait, d'accord. Hein,
c'est off.
L'édito de Bruno tout à l'heure autour de 18h30.
Ouais, ce soir je vais dénoncer quelque chose de terrible.
Oh là là, ça promet. Autre chose qui promet, c'est le spleen de Manon en fin d'émission, la nouvelle chronique poétique de Topette toutes les deux semaines. On aura aussi Mathéo qui était là, je crois, mardi dernier, qui revient ce soir pour nous présenter une nouvelle chronique d'actualité. Topette tous les soirs, 18h10, 19h. C'est parti sur le 101.5 FM.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Et avant toute chose, on commence avec un point sur l'actu locale ici à Angers, et ça se passe avec toi Camille. Rebonsoir Camille.
Salut Pierre Benoît.
On commence ce flash d'informations pour une fois avec un peu de politique.
Exactement Pierre Benoît. Hier, le président de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon s'est rendu au grenier Saint-Jean pour un meeting promotionnel afin de rappeler sa présence dans le paysage politique de gauche. Les principaux thèmes abordés, l'échec de la motion de censure et la bassesse des fausses oppositions. Devant des milliers de partisans, le candidat LFI a principalement attaqué ses anciens collègues du PS, notamment ceux qui défendent le Premier ministre François Bayrou. 1h14 de prise de parole lui ont suffi à emporter le millier de spectateurs présents hier soir. Le budget 2025 est dans toutes les discussions, même dans le Maine-et-Loire. Hier, le conseil départemental s'est réuni pour discuter des objectifs pour l'année 2025. Après une année 2024 placée sous le signe de l'économie, Florence Dabin se dit inquiet concernant l'instabilité actuelle autour du budget. Le département du Maine-et-Loire pourrait se voir prélever 30 millions d'euros d'investissement, un aspect qui est pourtant essentiel du budget du département. À noter que le vote du budget se déroulera le 12 et le 13 mars.
Camille, on termine avec un sujet que tu affectionnes, le SCO d'Angers, qui brille en en Coupe de France.
Exactement, Pierre Benoît, un score à réaction. Hier, les Angevins ont accédé au quart de finale de la compétition après une victoire 3-1 sur la pelouse de Strasbourg. Malgré une équipe remaniée par Alexandre Dujeu avec la titularisation de Zinga dans les cages à la place de Yaya Fofana, les Angevins ont su rapidement déjouer les plans alsaciens. Un doublé de la pépite Esteban Lepaul, auteur déjà de son 9e but de la saison, ponctué par une ouverture de El Milali à la 76e. Angers fait déjà mieux que la saison dernière, sorti dès son entrée en lice contre le Stade Brestois. Rendez-vous ce soir pour le tirage au sort des quarts de finale de cette Coupe de France.
Un grand merci Camille pour ce flash des actus locales à Angers qui, on le voit bien, résonne aussi avec l'actualité nationale. On peut pas y échapper. Camille et Bruno tout à l'heure, Mathéo également et puis Manon, mais avant tout ça, nos invités qu'on accueille maintenant ce soir dans Topette.
L'invité de Topette sur Radio G.
Bonsoir Tania.
Bonsoir.
Tania Tremblay même de ton nom de famille. Bonsoir Benoît.
Bonsoir.
Benoît Bricard, de ton nom de famille également. Vous êtes tous deux membres fondateurs de LASER. Alors LASER, ça signifie l'association de zététique pour un écologisme rationnel. Tout à l'heure, j'annonçais que c'était un petit peu, c'est même comme ça, hein, c'est l'art de cultiver le scepticisme, en tout cas tant qu'il n'y a pas de preuves scientifiques suffisamment tangibles pour pouvoir émettre un jugement fiable à quasiment 100%. Et c'est un petit peu dans le nom, les sujets de cette zététique chez vous semblent tourner un petit peu autour de l'environnement, de l'écologie. Et on va parler tout à l'heure de cette soirée de l'esprit critique qui aura lieu le 22 février. J'ai pas encore le lieu, mais vous allez nous le dire tout à l'heure. C'est peut-être au Grenier Saint-Jean, comme Jean-Luc
Mélenchon.
Au Carnet, voilà, c'est au Carnet. Avant d'aller plus loin, il est quand même important de définir ensemble ce qu'est la zététique. Vous le savez, j'imagine que c'est une question qu'on vous pose très régulièrement quand vous vous affirmez en tant que zététicien, peut-être, ou zététicienne. Camille, je ne pense pas qu'il sache ce que c'est. Alors Benoît, Tania, on compte sur vous. C'est quoi la zététique? C'est quoi son histoire dans les grandes lignes, Benoît?
Alors l'histoire elle est très longue, donc je vais vous l'épargner là, mais aujourd'hui ce qui est important c'est de savoir ce qu'elle est aujourd'hui, et nous on la présente comme une boîte à outils mentale pour favoriser son esprit critique. Et rapidement, bah on voit bien que dans cette définition il y a un autre terme qui s'appelle esprit critique, qu'il faut peut-être également définir, parce que la plupart du temps on a tous à peu près une idée nébuleuse de ce que c'est que l'esprit critique, et nous on aime bien en fait la présenter comme une chose qui vise à questionner nos croyances et nos actions en vérifiant la qualité de nos raisonnements et réflexions personnelles. Autrement dit, employer son esprit critique pour des raisons, enfin déjà essayer de voir est-ce que j'ai des raisons de croire ou pas en quelque chose. Et on croit, enfin pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, d'ailleurs une petite parenthèse, on ne croit jamais à 100% en quelque chose. L'idée c'est d'être dans une position adogmatique, c'est-à-dire une position qui peut être tout le temps changée en comparaison à un dogme qui est une idée immuable qu'on ne quittera jamais. Voilà, nous on évite d'avoir un maximum des idées comme ça et on part du principe que tout, on peut tout remettre sérieusement en question tant qu'il y a un raisonnement rigoureux derrière. Voilà. Et enfin, utiliser aussi cet esprit critique pour savoir comment agir dans notre monde. Donc, il y a un pan plus axé sur nos croyances personnelles et plus un autre pan sur qu'est-ce que je veux faire si j'ai des objectifs ou ce genre de choses, quoi.
Voilà, zététique, sur votre site internet, c'est même défini comme ça. Ça vient d'un mot grec, me semble-t-il, qui signifie zététikos, qui cherche ou qui aime chercher. Donc ça, c'est un petit peu... C'est aussi ça, la petite particularité, c'est que il y a les pourquoi on réfléchit, mais aussi le plaisir de remettre en question, Tania, voilà, on va se questionner, on va essayer d'aller voir, pas les failles, mais de voir si tout est bien méthodiquement suffisamment tangible pour pouvoir se construire un jugement le plus proche, encore une fois, pas à 100%, mais le plus proche de ce qui peut être la réalité.
Et ouais, en fait, tu parles de plaisir. Moi, la chose qui m'a le plus touchée depuis que je fais partie de cette asso, c'est justement le plaisir de découvrir des nouveaux trucs, le plaisir de changer d'avis, le plaisir d'avoir des discussions saines avec les gens, c'est-à-dire de pas essayer de défendre un point de vue justement dogmatique avec des idées qui sont intouchables et juste de vouloir avoir raison, plutôt d'avoir des discussions dans lesquelles on peut échanger des arguments qui sont solides avec des belles rhétoriques et qui sont bien fondées. Et derrière, potentiellement changer d'avis au besoin. Et en fait, finalement, changer d'avis, c'est devenu une espèce de jouissance. C'est-à-dire que ça donne vraiment l'impression d'avoir de rajouter une couche de connaissance et une couche d'intelligence à ce que je savais déjà avant.
Voilà. Alors,
Votre sujet un petit peu de prédilection à laser, c'est dans le nom, c'est ce que j'ai énoncé tout à l'heure, c'est écologisme rationnel, ça c'est la fin de R de laser. Ça signifie que c'est un peu votre domaine de prédilection, l'environnement, vous appliquez cette zététique spécifiquement sur ces questions ? Benoît,
oui, dans ma manière à moi de me représenter le monde, oui, en effet, je l'emploie. Après, je l'emploie aussi dans d'autres domaines, mais il me semblait intéressant parce qu'en fait, la zététique aujourd'hui, enfin, en France, je dirais, ça fait quasiment pas loin d'une vingtaine d'années où elle est, en tout cas, un peu médiatisée, notamment sur les réseaux YouTube. Peut-être les auditeurs auditrices le connaîtront, des chaînes comme Défécator, comme La Tronche en Biais, l'hygiène mentale, et j'en passe, il y en a beaucoup, beaucoup. Et nous, il nous semblait intéressant, parce qu'en fait, parmi toutes ces chaînes, il y a peu de personnes qui utilisent les outils de la zététique au service de l'écologie. Et moi, par exemple, qui viens du militantisme écologiste, hein, j'ai milité dans d'autres assos angevines, comme Justice Climatique Angers, que je salue d'ailleurs, au passage. Voilà, j'ai à un moment donné, je me suis dit, ce serait pas mal de construire, il y avait un truc à jouer autour de l'idée de monter une asso qui parle de zététique autour spécifiquement des questions écologiques.
Décembre 2021 pour la création de laser. Ouais. Du coup, Tania, Benoît, il faut quand même qu'on évacue ces trois idées-là qui peuvent peut-être émerger dans au travers des oreilles de nos auditeurs auditrices. Ce n'est pas une secte, vous n'êtes pas spécifiquement climato-sceptique, hein, on est d'accord.
Ah oui, alors le terme climato-sceptique, excuse-moi, je parle beaucoup, Tania, je te laisserai la parole après, mais en gros, le terme climato-sceptique fait beaucoup de mal au scepticisme. En fait, moi, je considère, dans ma définition à moi du scepticisme, que les climato-sceptiques sont tous sauf sceptiques, parce que s'ils étaient réellement sceptiques, en fait, leur climato-scepticisme, je mets des guillemets, on les voit pas, mourrait dans l'instant, en fait. Ils seraient obligés, comme nous pratiquons le scepticisme, ils seraient obligés de changer d'avis, en fait, parce qu'aujourd'hui, il y a un consensus large. Comme je disais tout à l'heure, on n'est jamais sûr à 100% de quelque chose, mais le consensus scientifique autour, par exemple, du dérèglement climatique, lui, on n'est pas loin des 100%. On est à 99,999. À un moment donné, quand on a toute une communauté d'experts qui majoritairement sont OK pour dire que le réchauffement qu'on vit est réel et qu'il est d'origine humaine, moi, je ne peux que me plier à cette décision plutôt que de balancer des arguments ad hoc pour un peu me faire plaisir et dire oui, il y a les cycles solaires ou oui, enfin, je sais pas quoi. Enfin, bref, tout plein d'arguments qui sont aujourd'hui complètement, erronés.
Et Tania, on est bien d'accord qu'en participant à la création de laser, du coup, tu n'as pas souhaité faire concurrence à la franc-maçonnerie. On n'est pas sur une secte ou c'est sur des choses comme ça. On est sur, c'est quelque chose d'ouvert. On est, voilà.
Ben oui, on n'est absolument pas une secte. Justement, au contraire, une secte, c'est la définition du dogmatisme, en fait. Avec une personne qui dicte des règles et les autres qui suivent et qui se plient à des règles qui sont complètement
créées de toutes pièces
voilà. Mais qui sortent de la tête d'une personne, en fait, qui sortent pas du tout d'une discussion large autour de la science, par exemple. Nous, c'est vraiment la base, c'est est-ce que j'ai suffisamment de preuves pour croire ce que je crois. Et c'est vraiment une auto-réflexion, en fait. C'est-à-dire que si j'ai une croyance, j'essaie de la questionner. Et si j'ai pas suffisamment de preuves, bah, soit je décide de garder ma croyance et je sais que c'est une croyance, soit je décide de plus y croire. Voilà.
D'ailleurs, je parlais de franc-maçonnerie, mais c'était plutôt scientologie que j'avais en tête.
Ah oui, ouais,
j'ai vu le mot scientiste aussi quelque part sur le site internet. Vous vous différenciez de ça. On va pouvoir en parler dans oui. quelques instants, et puis aussi parler. On va y arriver sur cette soirée du 22 février. Puis je vois Bruno et Camille qui commencent à lever la main. Ça a l'air de bien les stimuler. À mon avis, ils ont plein de questions. Okay. On va les garder au chaud, vos questions, pour l'instant, si vous le voulez bien. On fait d'abord une première pause musicale. On en fera qu'une, d'ailleurs, au cours de cette émission. Non, on en fera d'autres à la fin. Bref, on écoute Freud de Big Wool sur le 100.5 FM. Freud de Big Wool sur le 101.5 FM. À l'écoute de Topette, Freud justement, psychanalyse qui a pu être remise en question depuis ces dernières années, notamment par la discipline de la zététique, le sujet de la soirée, puisque nous sommes toujours avec Tania et Benoît, membres fondateurs de Laser. D'ailleurs, est-ce que vous êtes que deux membres ou il y a d'autres personnes qui vous accompagnent, Benoît, Tania?
Non, il y a d'autres personnes. Il y a Nicolas Julien avec qui on était venu ici il y a peut-être un an ou deux pour présenter une conférence qu'on faisait autour de l'écologie contre l'idée de nature. Voilà, et globalement, ouais, je dirais on a un petit noyau dur de 3, 4, 5 personnes, en fait. Mickaël, ouais, toi, moi, Nicolas.
Au début, on était une quinzaine. Là, on a perdu des équipiers parce qu'il y a des gens qui sont partis d'Angers. On doit être 6 ou 7 adhérents actuellement. Voilà.
Et ce qui me semble important à dire dans notre association, c'est qu'en fait, on est une association collégiale en comparaison avec une secte où on a un gourou, qui est une organisation très pyramidale, où on a un gourou qui va donner toutes ses croyances et tout le monde doit aller boire ou s'en aller. En fait, tout le monde est fait partie du bureau. C'est-à-dire que n'importe quel membre qui adhère chez nous aura le même pouvoir décisionnaire que n'importe qui d'autre, qu'on soit fondateur ou pas.
Attends Camille, qu'il y a encore quelques instants avant de pouvoir poser tes questions. Bruno également, ce sera juste après ton édito justement, puisque avant tout ça, va falloir qu'on aborde la soirée de l'esprit critique du 22 février au Carnet. Mais avant tout ça encore, peut-être deux trois petites questions sur la zététique, parce que finalement, si on comprend bien, donc on est tous un petit peu zététiciens, zététiciennes. Finalement, il suffit simplement de toujours. On parle beaucoup de fake news, par exemple, par rapport à tout ce qu'on voit déferler sur les réseaux sociaux, sur Internet. C'est un petit peu cette démarche-là de l'esprit critique, de se dire, ok, il y a une information qui arrive, mais on va la prendre avec des pincettes. On va essayer de trouver d'autres sources d'informations. Est-ce qu'il y a une méthodologie un petit peu type Tania?
Eh ben, déjà, premièrement, d'aller vérifier la source, tout simplement, et puis de voir si la source est fiable. Et en effet, si jamais on a du mal à trouver la source, essayer d'aller piocher dans d'autres sources pour savoir si l'information en question était vraie. Et aujourd'hui, j'hallucine un peu avec toutes les deepfakes, les images IA, tout ça. Ça devient d'autant plus important aujourd'hui d'aller vraiment chercher. Et nous, on essaye modestement, en fait, de partager des outils autour de ça. Et voilà.
Est-ce qu'il y a des... Oui, vas-y, Benoît.
Je voulais juste ajouter, en fait, que pour moi, la source... En fait, on différencie aussi source primaire, secondaire, tertiaire. Par exemple, si je lis un article dans un journal et que je dis « j'ai lu ça dans ce journal », je ne cite pas la source primaire, parce que souvent, l'article de journal, lui, se réfère à une publication ou quoi que ce soit. Donc, en fait, l'idée, c'est d'arriver à remonter la source primaire. C'est pas toujours évident, parce qu'elle n'est pas toujours citée explicitement dans les journaux. Et après, de vérifier si, effectivement, déjà, ce qui peut se produire, c'est qu'un article de journal va faire dire à une publication scientifique ce qu'elle ne dit pas. Donc déjà de s'assurer s'il n'y a pas un gap entre ce que dit la publication et ce que le journal dit qu'elle dit. Voilà. Et après, il y a une chose, c'est sur le... Je vais paraphraser Florian Gouttière, qui a un site qui s'appelle Curiologie, qui a bossé pour le journal de la santé Arte, qui aujourd'hui est journaliste scientifique pour Libération et qui est à Angers, en fait, qui dit que le 1er avril, c'est un peu le moment où c'est un peu la journée de l'esprit critique finalement, parce que le 1er avril, on sait que peut y avoir potentiellement des vannes, des fakes qu'on va nous faire, donc on va être hyper vigilant. Et selon lui, donc on devrait raisonner comme si tous les jours étaient un 1er avril quelque part, en fait, voilà.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même une limite à toujours remettre en question, en doute les choses? Est-ce que des fois il n'y a pas, est-ce que ça n'entraîne pas aussi des comportements de survigilance ou de paranoïa peut-être? Est-ce qu'il y a quand même un compromis à trouver? Faut que ça reste sain d'esprit justement, Tania.
Eh ben déjà premièrement, c'est absolument impossible de soi-même aller tout le temps tout checker. Vu la quantité d'informations qu'on reçoit, c'est impossible. Donc, il faut aussi trouver des gens sur lesquels on peut se baser, c'est-à-dire des personnes qui sont fiables, des groupes d'experts, par exemple, ou des vulgarisateurs qui vont faire des recherches rigoureuses pour s'informer. Et notamment, moi, je pense qu'on devrait pouvoir se fier aux journalistes et aux les comités de fact-checkers. Et voilà. Et donc, il faut juste s'assurer que ces groupes ou ces experts soient fiables. Mais déjà, on peut faire cette démarche-là. Et puis, pour répondre plus précisément à ta question, des fois aussi, il faut se foutre la paix. Voilà. Et puis, on a le droit d'avoir des croyances. Et la question, c'est pas tellement est-ce que les croyances, c'est bien ou pas bien. C'est est-ce que ma croyance peut être potentiellement dangereuse pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Voilà. À partir de là, moi, si je crois que j'ai un truc spécial avec les chiens, genre les chiens m'aiment Je sais pas pourquoi. Ben moi, je suis contente de penser ça et tout va bien. En fait, je fais de mal à personne. Si je commence à dire, moi, je crois que, je sais pas, il faut faire des saluts à la lune en bouffant de l'ayahuasca la nuit et puis que je fais venir un groupe de 20 personnes puis je leur fais payer 1000 balles la soirée, là, ça commence à être dangereux pour d'autres, voire pour moi, quoi.
Voilà. Oui, voilà, c'est le bon dosage. Alors, pour connaître un petit peu ce bon dosage, parce qu'on va pas avoir assez de temps d'émission pour bien découvrir tout ce qu'est la zététique, savoir comment ça marche et puis quels sont les points de vigilance sur lesquels il faut faire attention. Heureusement, vous organisez une soirée de l'esprit critique, justement, le 22 février. C'est au Carnet, alors, Benoît, ouais, pour faire la présentation. Pareil, la programmation, on va peut-être pouvoir la détailler, ou en tout cas la survoler. Il y aura beaucoup d'experts, il y aura des discussions. Comment ça va être organisé? Comment on va pouvoir assister à cette soirée de l'esprit critique?
Alors, sur cette soirée, en fait, on essaie de sortir un peu, on organise deux types de soirées, des conférences d'un côté et des soirées de l'esprit critique de l'autre. Donc ici, il s'agit d'une soirée de l'esprit critique, donc il n'y aura pas de conférence. Le but du jeu de cette soirée, nous, c'est d'avoir de récolter de l'argent justement pour financer des prochaines conférences qu'on voudra organiser. Et donc pendant cette soirée, on casse un peu les codes, on essaie de un petit peu, tous les moyens sont bons pour parler esprit critique et écologie. Et donc du coup, il y aura du jeu, voilà, alors des jeux de plateau, mais aussi un jeu qu'on a fait nous-mêmes qui s'appelle la cible de Graham, un jeu qui se réfère à un livre qui s'appelle L'art d'exprimer son désaccord et qui propose en fait de pratiquer la rhétorique tout en et de déceler les arguments rhétoriques tout en jouant. Après, derrière, il y aura également de la musique, on a aussi des performances. Alors, faut pas trop j'en dise parce qu'il y aura une espèce de canular, mais bon, déjà j'en dis un peu trop.
Te surveiller,
attention
à tout dire, Benoît.
Mais voilà, et aussi ce qui me semble important de dire, pour rebondir un peu sur ce que disait Tania il y a un instant. Sur cette soirée, on va aussi axer énormément l'idée que nous, on fait pas la guerre aux croyances en général. Les gens croient ce qu'ils veulent. Nous, ce qui nous importe, c'est les croyances le problème avec les croyances, c'est quand elles sont soit toxiques ou soit quand elles s'immiscent dans un agenda politique. Voilà. Ce sont ces croyances-là à nous, dans le domaine de l'écologie, auxquelles on s'attaque. Voilà, typiquement. Et toxique, ça veut dire pour moi ou pour mon environnement proche, les gens qui m'entourent. Voilà.
C'est hautement d'actualité. Justement, ça fait bouillonner Camille. Camille, encore un tout petit peu de patience. 3 minutes, promis. Dernière question avant de passer à l'édito de Bruno. Benoît, Tania notamment. Pour qui ça peut être cette soirée de l'esprit critique? Qui ça peut intéresser? Des jeunes, des moins jeunes, des personnes qui ont une expérience de vie, des personnes qui ont peut-être vécu des dérives aussi sectaires?
Clairement pour tout le monde. Même pour les enfants, on a les petits débrouillards qui vont être là au début de la soirée pour faire des ateliers avec les enfants. Normalement, ils sont là. Hein.
Normalement, ils sont là.
Ouais. On a invité d'autres associations. On verra qui sera présent ou pas pour parler de ce qu'ils font. Il y aura des performances musicales, des performances plus théâtrales. Franchement, ça s'adresse à tout le monde. C'est une soirée un peu décousue, c'est-à-dire il y a pas une programmation. C'est pas toujours sur scène que ça se passe. Des fois, il se passe rien sur scène, mais il y a plein de jeux auxquels on peut aller participer, des stands à visiter. On va avoir un bar, une restauration. Donc vraiment, tout le monde est bienvenu à cette soirée, quoi.
Et comme on a deux personnes qui sont avec nous et qui découvrent actuellement ce qu'est la zététique, on va pouvoir les laisser poser leurs nombreuses questions qui sont venues en tête depuis tout ce temps-là. Mais avant tout, on laisse la parole à Bruno pour son édito.
Oyez, oyez, producteur de Radio G, c'est maintenant qu'arrive le plus beau. Dans votre radio, venez vous approcher, c'est le moment de l'édito de Bruno. De Bruno.
Ah, c'est à moi. Bon, alors ça va pas du tout. Le monde marche sur la tête, même si cette expression ne veut rien dire. Je pourrais vous parler des États-Unis et leur nouveau président, je pourrais vous parler de la politique française, du climat, mais non, le monde va encore plus mal que tout ça. Une nouvelle qui a terrorisé toute l'équipe de communication de la radio, y compris Pierre Benoît. Non, je vous le dis gravement, le monde marche sur la tête, même si ça veut toujours rien dire. Et ce, pour une raison qui nous rend tous fous, depuis 15 jours. Oui, Instagram a changé son format de post sur les présentations des comptes utilisateurs. Ça fait 15 ans qu'on a fait bien attention de faire de belles présentations bien carrées, avec quelquefois même de belles petites bordures. Le carré était devenu le format à privilégier pour être compatible. On était obligé de tout recadrer pour le dieu Insta. Mais voilà, depuis mi-janvier, excite le format 1.1, le standard est maintenant le format vertical 5/6. Alors pourquoi ce format hybride qui se rapproche du format 16/9 des vidéos sur mobile? Bien justement pour devenir de plus en plus une plateforme vidéo comme TikTok, qu'Instagram rêve de remplacer. Donc voilà, Pierre Benoît, il va falloir arrêter le carré. Et je parle pas de la discothèque. C'est la fin du monde, on va tous crever. Bon, je suis un petit peu excessif, mais c'est quand même flippant, hein, de le pouvoir de ces réseaux privés. D'ailleurs, la gestion scandaleuse des contenus est aussi un problème. Heureusement, Radio G s'est courageusement retiré de X pour protester contre les contenus fake et manipulateurs. Bravo, Radio G. Bon, en même temps, Radio G n'a jamais été sur Twitter ni sur X. Bon, pareil pour TikTok. Non aux Chinois qui nous volent nos données. Vous vous rendez compte? Depuis un an, Hervé Bazin est l'auteur le plus lu en Chine avec le podcast de Luc. Noodle, ton chroniqueur, est le prénom le plus donné aux enfants là-bas. Tout, ils nous pompent tout, sauf la chronique de Raphaël, hein, ils sont sélectifs quand même. Alors, va-t-on devoir se retirer d'Instagram? Oh ben non, quand même, non, Pierre Benoît n'aurait que Skyblog et MSN pour exister, non, non. Raphaël ferait des dessins sur Minitel avec le 3615 Rafazap, autant dire que ce serait adapté, mais limité. Bref, sur les réseaux sociaux, c'est open bar, on peut dire du mal de tout le monde sans craindre personne, un petit peu comme mon édito, mais en anonyme. Finalement, dans ce nouveau monde, est-ce que se faire troller n'est pas une consécration, en fait? Parler de moi en bien ou en mal, qu'importe, le principal, c'est qu'on parle de moi. Un besoin d'amour qui cherche la haine, mais le monde marche sur la tête, même si cette expression ne veut toujours et encore rien dire. En tout cas, moi, de l'amour, j'en ai. Non, Pierre Benoît, non, ce n'est pas toi. Non, non, c'est celui de Brad. Eh oui, Brad Pitt suit mon compte. Il m'a même envoyé une photo de lui avec Bruno, je te love you. Sur son t-shirt. Trop love. T'es jaloux, hein? Ouais. Tellement il m'aime, il m'a demandé de l'argent pour venir me voir. Ah, si c'est pas une preuve. Bon, allez, je vais le rejoindre sur Internet. À dans 15 jours et sans rancune.
C'est la fin de l'édito. Pierre Benoît dit pas trop tôt. Vous pouvez remettre le volume. À bientôt et sans rancune.
Tout en poésie, cet édito de Bruno. La poésie, justement, il en sera question en fin d'émission avec le spleen de Manon, la toute nouvelle chronique poétique de Topette. Mais avant tout ça, on retourne en zététique.
Topette, sur Radio G.
Car nous sommes toujours avec Benoît et Tania, deux des membres cofondateurs de l'association de zététique pour un écologisme rationnel. Laser, voilà le laser de connaissance, de méthodologie critique. Et justement, à évoquer, donc à faire cette présentation et puis à parler de la soirée, ça a éveillé plein de questions dans l'esprit de Camille, notamment. Je te voyais lever la main à longueur d'interview. Quelles seraient tes questions à poser à ce niveau-là?
Alors moi, ma première question, quand je vous ai entendu parler de zététique, déjà c'est un concept que je ne connaissais pas. Et moi, la première question que j'ai, est-ce que... Ça dérange les gens, le fait que vous avez parlé de remettre beaucoup de choses en question. Est-ce que vous pensez que ça dérange un peu les gens, cette façon de penser de zététique?
Oui. Tu veux, je réponds. Oui, je pense que oui, parce qu'en fait, on a souvent tendance à penser que nos idées sont une partie de nous. Mmh. Or, depuis que je m'intéresse à ces questions-là, j'essaie justement de m'abstraire un peu de mes idées, de me dire non, je peux changer d'idée. Ce n'est pas une partie de moi. Si tu me coupes un bras, effectivement, je parle une partie de moi. Je fais la différence entre mon corps et mes idées. Et mes idées, elles peuvent changer au fil des discussions, d'autant plus si elles sont de qualité. Après, bien évidemment, quand tu commences à partir dans cette remise en question de tout plein de choses, ça ne fonctionne pas avec tout le monde. Il y a des gens avec qui, effectivement, moi je pense par exemple à des membres de ma famille avec qui ça passe pas. Le repas de Noël, je sais que mon point de vue les dérange. Ils n'aiment pas ça, que je remette en question ce qu'ils disent. Donc, simplement, j'arrête de le faire, en fait. Et je me dis que ce sont pas les bonnes personnes. Mais des fois, en fait, t'as des indices qui te montrent que quelqu'un est sensible à cette démarche-là, et là, auquel cas, tu peux y aller. Et ça arrive aussi régulièrement.
Camille?
Finalement, ouais, il y en a qui comprennent un petit peu cette diététique, cette façon de penser, même si c'est quand même un nombre très mineur, j'imagine, au sein d'Angers, mais même en France, plus généralement.
Je sais pas si c'est mineur, en fait. Je pense que des fois, juste, on s'identifie pas forcément à ces termes-là. Moi, je dirais surtout que, en fait, on peut pas parler de la même façon à tout le monde. Pour, je sais pas, moi, des sujets, moi, je m'intéresse beaucoup à la question animale. Et ben, il y a plusieurs arguments qu'on peut utiliser pour parler de cette question. Les arguments vont pas toucher de la même façon les autres personnes en face de nous. Et donc, des fois, c'est juste une question aussi de commencer par écouter la personne en face, essayer de comprendre son point de vue, ses prémices. Parce que quand je dis les prémices, c'est, je veux dire, ses idées, quoi. Sur quelles idées ses pensées se fondent. Et après, commencer à discuter et commencer à argumenter. Et à partir de là, moi, je pense qu'on peut parler à tout le monde. C'est juste qu'il faut faire attention à comment on dit les choses, comment on en parle. Et puis, je pense que la zététique ou cette boîte à outils mentale, en fait, elle peut s'adapter à tout le monde, en fait. C'est juste qu'il faut pas rentrer dans une démarche agressive pour qui crée de la réactance, c'est-à-dire une grosse réaction un peu en face de non, surtout touche pas à mes idées, touche pas à mes opinions. Comme tu dis, ça, il y a des personnes pour qui ça fait, c'est vraiment une fait partie de leur identité. Et donc, il faut faire attention à ça, c'est très important, je trouve.
Et moi, j'ajouterais juste un petit trick, ceci qu'on utilise beaucoup, c'est la distinction, en fait, dans les idées, dans la famille des idées, il y a deux sous-familles, celle des faits et celle des opinions. Voilà. Et donc, en fait, moi, j'essaie de ne pas traiter ces deux objets de la même manière. C'est-à-dire, quand on parle de faits, bah là, il est assez facile d'invoquer les disciplines scientifiques qui sont à l'œuvre pour réussir à objectiver si effectivement ce qui est présenté comme factuel l'est réellement. Par contre, quand on arrive dans le domaine des opinions, bah là, on est plus sur un champ moral, politique, éthique, philosophique. Et là, du coup, l'idée, c'est de ne pas employer ce bagage méthodologique scientifique dans cet endroit-là, parce qu'ici, il est inopérant. Il n'est pas.
Voilà. Oui, il n'y a plus de vérité absolue dans certaines opinions qu'on peut avoir, voilà. Politiquement, voilà. Ou socialement. Bruno, à quoi ça te fait penser? Quelle réaction tu as? Toi, tu es souvent assez critique, justement, par rapport aux idées qui peuvent être proposées, les choses dogmatiques.
Je voulais savoir si vous répondiez aux réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, est-ce que quand vous voyez, justement, une fake news ou quelque chose, est-ce que vous répondez, est-ce que c'est seulement quand vous êtes en présentiel avec quelqu'un?
Alors sur les réseaux, moi ça m'arrive de signaler les publications effectivement quand elles sont problématiques, vis-à-vis par exemple sur le climat, si on est sur un truc climato dénialiste comme je préfère les appeler. Après, face à un troll qui répond, je pense que c'est un peu une perte de temps malheureusement, parce que des fois en fait les personnes sont simplement pas dans la même optique que nous de changer d'avis. En fait, c'est quand le jeu devient asymétrique, quand je suis face à une personne qui veut pas jouer au même jeu que moi, de devoir changer d'avis s'il y a des preuves qui sont là, bah je joue pas au jeu avec cette personne en fait.
Parce que en fait sur les réseaux sociaux, la plupart ils disent des choses comme ça pour exister en fait. Mm-hmm. Et le fait que vous en parliez, ça les fait exister. Est-ce que c'est pas bien aussi de quelquefois ignorer? Est-ce que vous avez cette balance en disant bon bah là non, je vais ignorer parce que ça va. Moi il y a des choses, je suis défécateur, je suis tout ça aussi sur internet et j'apprends des fake news que je ne connaissais pas. Ouais. Et du coup, bah, ça s'immisce dans mon esprit petit à petit. Ça s'additionne, toutes ces fake news. Et après, inconsciemment, bah, je dis, tiens, j'en ai entendu parler, je sais plus comme ça. Et est-ce que d'en parler, c'est pas justement le problème?
Un empereur romain a dit, haïr ses ennemis, c'est leur donner du pouvoir. Je sais pas si ça résume un peu ça.
Enfin, surtout en parler.
Oui, alors, moi, je pense qu'il y a quand même deux cas de figure là-dedans. C'est quand une idée, elle est déjà largement répandue. Je pense pas que dans la quantité pharaonique de données, si moi j'en parle à cet endroit, ça va changer quelque chose. En revanche, quand on est sur quelque chose de plus, pas mainstream, justement, le contraire, plus souterrain, enfin, de quelque chose qu'on entend moins parler, effectivement, là, tu peux arriver à lui donner de la visibilité malgré toi. Par contre, ouais, encore une fois, face au discours climato-sceptique qu'on voit beaucoup, je pense non, il est important d'en parler et de dire pourquoi c'est faux. Ce que fait très bien des fécateurs, par exemple.
Camille, il y a encore une dernière toute petite question.
Ouais, la dernière question que j'avais, moi, c'est quoi les combats récents que vous avez menés, justement, pour dénoncer, parce qu'il y a beaucoup de fake news, même de faits dans la société récemment. Quels sont les derniers combats que vous avez menés?
Est-ce qu'au-delà de la méthodologie proposée par Laser, il y a un combat qui vous porte?
Alors individuellement oui, collectivement sur le projet Laser je crois pas, vu qu'on est plus sur l'organisation de, on mène pas des actions comme Justice Climatique Angers etc, comme je le disais. Moi les batailles elles sont plutôt individuelles, elles n'engagent pas Laser. Après dans Laser on a remis en question l'idée de nature par exemple, on a fait une conférence où on s'est dit voilà, questionnons cette idée de nature, est-ce qu'elle est vraiment féconde, est-ce qu'elle nous pose pas plus de problèmes qu'autre chose, de quoi d'autre avons-nous parlé, affi d'ésotérisme.
Ouais, la dernière conférence c'était plutôt une table ronde avec il y avait Claire Schweitzer qui est élue et les filles à la mairie d'Angers et ils avaient fait titre du podcast Méta de choc et qui ont parlé de la question quand l'ésotérisme s'immisce dans la politique, quel danger ça peut avoir. Et là par exemple par rapport à ta question, on a eu beaucoup de réactances dans le public, ça a touché les gens fort parce que ça les a vraiment remués dans leurs croyances. Donc voilà.
Bon, en tout cas, ça amène à questionnement, à débat, à remise en question. Voilà, on a de quoi s'occuper, je pense, avec la zététique et puis le laser. Et puis cette soirée dont on va redonner les infos pratiques, on va donner même les infos pratiques dans quelques instants. Mais avant tout ça, on part avec toi, Mathéo, pour une chronique d'actualité. Voilà, il y en a deux cette semaine, ça nous fait plaisir.
Il y a un mois avant le début de Premier Plan, j'étais venu faire une chronique introductive sur les trois longs métrages en compétition qui, à mes yeux, étaient les plus intéressants. J'avais choisi de ne pas inclure La Pampa car c'est évident que pour nous, Angevin, c'était le film à voir. Ce classement totalement subjectif était constitué de Nicab, de Rich Pepiat, de September 6, d'Ariane Labed et de Vermiglio, ou La mariée des montagnes de Maura Del Perro. J'ai pu voir deux de ces trois films, donc je vais vous en parler dès maintenant. Vous donner mon avis, qui, je le répète et c'est important, est totalement subjectif à l'image du cinéma. Vous allez voir que le ressenti, l'ambiance et l'atmosphère, que ce soit dans l'œuvre ou dans la salle, jouent pour beaucoup dans le cas de ces deux films. Il s'agit de Kneecap et de September 16. L'un est une belle surprise et une expérience assez unique, quand l'autre a été une déception assez immense. On commence par le film qu'il faut absolument aller voir cette année, et c'est Kneecap de Rich Pepiat.
Avec quoi?
Arkansas boys and Roland 808. Yeah, sir, are gonna be us real like full quarter if we like grammar. When she blast us, been the daddy Zealand hip hop. Could you on your? Do I look like I want to read subtitles? Ian, dog, tree. It's River Wabe, Miss Bartcher, and St.
Arrogate. Instead of the seers, the knock at the door before the knock at the door. Him and his wee pals, music. He's drawn attention from all the wrong places.
Nothing but a HOOD. No life scum.
We'll end up face down in an alley.
You have a life, a career, a future. Remember, I can take it all away from you like that.
Special delivery.
Hey! No more music.
Every day I am not captured is a psychological victory against the occupiers.
Kneecap. So-called Irish language rappers promoting antisocial behaviour and violence.
Stay forced to talk of. Enough time, it's just used to
think. Never want to see you again.
Fuck off, Gaelic a lorcher.
A pillar, a snake, there are some seers in the heron.
Or is pillar shinovic.
Why don't you just speak the Queen's English?
J'en attendais beaucoup de ce film, il m'a tout de même surpris. Kneecap, c'est un vrai groupe, un biopic joué incroyablement bien par des acteurs qui n'en sont pas vraiment, puisque c'est eux-mêmes qui jouent leur rôle. C'est cela qui rend le casting intéressant, avec en plus un Michael Fassbender qui joue le père de famille caché, supposé mort, qui milite toujours. La vie de ces rappeurs était faite pour finir au cinéma. Le film part dans tous les sens, surtout que la drogue est un élément central. C'est elle qui transforme les personnages en vrais fous dans le film, et c'est pas du tout une exagération. Le groupe est composé de trois membres, Moshara, Mowgli Bop et DJ Provai, deux potes qui grattent des textes et qui finiront par rencontrer donc le fameux DJ Provai, qui lui est à l'origine un prof, époux d'une femme militante pour le retour de la langue irlandaise. C'est de lui que proviennent les scènes les plus drôles, la manière dont il essaie de gérer son couple les lendemains, où il essaie toujours défoncer de donner des cours. Bref, il y a plusieurs scènes qui sont vraiment excellentes. Ce qui les sublime, c'est la manière dont c'est filmé. En fait, il faut savoir que le réalisateur Rich Pepiat est avant tout un documentariste et un journaliste. C'est quelque chose de marqué dans son cinéma, pas forcément la patte ultra réaliste que nous retrouvons par exemple chez un Boris Lochkine par exemple, mais cet intérêt énorme pour tout un secteur du cinéma dans lequel on vient piocher les meilleures idées pour les insérer dans Kneecap est réel. Le film a été fait au détail près, les plans sont variés, dynamiques, il y a des alternances de voix off et de scènes réelles, de ces petits croquis colorés qui apportent une originalité supplémentaire. Mais le plus satisfaisant, je pense, c'est la manière dont les concerts sont filmés. Au-delà de représenter une vraie évolution dans les lieux ou dans l'attitude, ces choses sont grandioses, nous embarquent, nous spectateurs. Ça, c'est aussi parce que la photographie du film est superbe et ces scènes de concert sont à concentrer de tous les points positifs que j'ai cités juste avant. 1h45 dans un Belfast prêt à exploser, je pense que ça vaut le détour. Le film sort le 18 juin en France et il faut le noter dans votre agenda. Allez, on passe au deuxième film, à l'opposé en termes de ressenti. Je vais vous parler de ma déception grecque de premier plan et elle se nomme September 16. 1, 2,
3.
Don't worry, silly July. We'll be okay.
That's the fourth time you've been sent home this year. Why did you learn to be like that?
She's the person I've always wanted to be.
Now I'm pretty good at looking after July.
What do you mean?
Nothing. September says, turn around. September says, you have to last as long as possible without laughing.
Hey,
Emma says, if I die, will you die too?
Yes.
Silly to lie. Watch where you put your feet.
What are you talking about?
September!
My sister's there.
September says,
I'm gonna poke your eyes out!
If only one of us could remain, it would be you.
Honnêtement, ça m'embête un peu de devoir parler de ce film, tant les 30 dernières minutes ont été difficiles à visionner. Pourtant, le film est rempli de bonnes intentions, et ce, sur pas mal de points. Il est assez joli, l'univers est singulier, c'est là aussi une attente venue d'une réalisatrice qui fut avant tout actrice, notamment dans des films de son compagnon, Yorgos Lanthimos. Et c'est ce lien avec le cinéma assez spécial du grec qui m'a conquis en avant-séance. Malheureusement, c'est aussi ce qui rend le film assez mauvais, car il l'est honnêtement. Des qualités sur la forme, belle photographie, bien filmé, un jeu intéressant, mais aussi des défauts, beaucoup. Qu'est-ce qui constitue un bon film? C'est une question que nous sommes en droit de nous poser, et pour moi c'est avant tout le message et comment le film le porte. Ici, le scénario n'a ni queue ni tête, le message est absent pendant une petite partie du film. On se dit qu'on essaie de nous montrer à quel point les liens familiaux de cette mère et de ses deux filles vont les rapprocher. Spoiler, c'est l'inverse. On se dit alors peut-être que le fond porte sur la différence, comment en faire une force. Là non plus, ça n'est absolument pas le cas. L'une des deux sœurs se fait embarquer dans des situations toujours plus bizarres par son autre sœur qui est une vraie folle. Et là, ça y est, peut-être que nous avons trouvé de quoi va parler le film, de comment cette fille timide va s'opposer à sa sœur pour lancer enfin sa propre dynamique personnelle et arrêter sa dépendance affective. Tout faux. En fait, le film raconte juste comment une enfant folle détruit la vie de sa famille à petit feu. C'est assez pauvre et surtout pas clair. Les personnages sont peu attachants. On a cette mère dont on ne comprend pas en fait grand-chose, si ce n'est que c'est une artiste dépressive. Le pourquoi ne sera d'ailleurs jamais vraiment montré. Jusque-là, un film moyen, puis cette famille part en vacances, dans la maison des grands-parents, et là ça devient vraiment difficile, le scénario se tue lui-même, crée une sorte d'extension de la folie des personnages autour d'un plot twist à la Fight Club, mais très très mal amené, déception vraiment, surtout la scène finale où le film nous amène sur un sujet très lourd, celui du suicide, de manière extrêmement maladroite, avec cette ferme impression que le sujet a été mis ici sans raison, juste pour rendre le film plus dramatique qu'il l'était avant cela. Malgré tout, le film reste une première œuvre intéressante qu'il n'est pas nécessaire d'aller voir, mais qui pourrait peut-être poser les bases d'un cinéma qui, lui, pourrait l'être, car visuellement, encore une fois, c'est une belle réussite pour rendre ce film autant barré. Il a fallu gérer les acteurs et leurs jeux, et Arène Labed a su plutôt bien le faire. Là aussi, une belle photographie, le choix des lieux est plutôt réussi. Dans un futur proche, pourquoi pas voir émerger de belles œuvres de la part de celle qui a joué dans The Lobster. Mais il va falloir faire un gros travail de fond. Le film sort en salle le 19 février. À vous de voir si vous voulez aller le visionner. Mais vu la qualité des sorties cinéma, pour moi, ça n'est pas une priorité.
Topette, c'est fini pour ce soir. Encore quelques instants. Tout à l'heure, on va se quitter avec le spleen de Manon, la chronique poétique de Topette. Mais avant tout ça, nous sommes toujours avec Tania et Benoît. Il nous reste quelques minutes, des toutes petites minutes, pour redonner l'essentiel de ce dont on a parlé ce soir. La zététique, vous avez fondé LASER, l'association de zététique pour un écologisme rationnel. Ça fait peur, hein, vraiment. Il y a que des mots pour faire fuir. Mais finalement, en creusant, en s'intéressant, en écoutant, on découvre que ça peut être très utile au quotidien. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans l'âme de LASER, Tania?
Oula, je ne m'attendais pas à cette question. L'âme de LASER, c'est questionnons nos croyances autour de l'écologie pour nous permettre d'avoir des bons arguments pour militer ensuite politiquement autour de la question de l'écologie.
Tu t'y attendais pas, mais tu as très bien répondu. Je pense que c'est assez clair. Concernant la soirée, pour le côté pratique, la soirée du 22 février, du coup, Tania, Benoît, est-ce qu'il faut réserver? C'est payant? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on peut y découvrir? Donner un petit peu envie.
Alors, il n'y a pas besoin de réserver. C'est le 22 février au Carnet à partir de 19h. L'entrée est à prix libre. L'idée de le concept de cette soirée, c'est vraiment d'accumuler des fonds pour pouvoir organiser nos conférences et tables rondes qui vont suivre. Nous, ça nous tient à cœur que ces événements-là soient gratuits. Donc voilà, l'idée de cette soirée, c'est d'accumuler de l'argent pour pouvoir organiser la suite. On peut pas encore donner les détails des prochains événements parce qu'on n'a pas la confirmation des personnes, mais on a des trucs sur le feu qui sont vraiment stylés. Et donc voilà, faut juste venir à partir de 19h. Il y a bar et restauration sur place, des jeux, des animations, de la musique. Voilà.
Et de la poésie.
Et de la poésie.
Vu qu'on ferme sur de la poésie, il y aura de la musique. On essaie de mettre ça aussi en poésie. On trouve qu'on manque cruellement de poésie, notamment dans ces milieux rationnels. Donc on aime bien aussi en mettre un peu, nous, également.
Un petit peu de poésie. Si Camille a envie de rejoindre la zététique avec vous, ça marche comment? Est-ce qu'on peut rejoindre l'assaut?
Pour rejoindre l'assaut, en fait, on fonctionne par cooptation. C'est-à-dire que faut venir. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais on organise tous les troisièmes mardis du mois le Skeptic in the Pub au Donald's Pub. À partir de 20h, c'est un moment un peu officieux dans lequel on peut se réunir pour discuter, pour découvrir l'association. Ça, c'est le meilleur moyen pour nous rencontrer. Et après, du coup, les personnes qui ont envie d'adhérer à l'asso doivent adhérer à la charte, adhérer au statut. Et ensuite, on présente les candidatures en assemblée générale. Et voilà, la personne après rentre dans la collégiale et le même pouvoir que tout le monde.
Et je me rends compte que tout à l'heure, j'ai annoncé qu'on allait faire la définition de scientiste pour vous différencier bien, évidemment, mais on l'a pas fait.
On l'a esquissé. C'est invoquer les outils scientifiques dans le domaine des opinions. Et nous, c'est ce qu'on ne veut pas faire. Voilà.
Et oui, tu l'as évoqué juste avant la chronique de Mathéo.
Sans nommer le scientisme, effectivement.
Effectivement. Bon, voilà pour la définition complète. Merci beaucoup. En tout cas, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Il y a un Instagram, je crois, un Facebook, certainement. Et un site internet, Tania?
Ouais, on a un site internet. Je pense que, bon, les réseaux sociaux, on est en train de réfléchir à la question d'y rester, comme beaucoup de monde, je pense. Ouais. Donc, le site internet, c'est, si je me trompe pas, l-azer.org. Ouais. J'espère que je me suis pas trompée.
Si vous tapez Laser Angers, je pense que vous allez trouver Laser avec un Z.
On a une newsletter à laquelle on peut s'inscrire. Je pense que ça va être notre meilleur moyen de communication les prochains mois.
En tapant Laser Angers, je pense que vous allez tomber et sur l'assaut ou le Laser Game. Donc si c'est pas le Laser Game, c'est le
Strike 1S, je pense. Voilà. Puis après, on est toujours sur les réseaux Instagram, Facebook.
Pour l'instant,
Merci beaucoup en tout cas d'être passé ce soir dans Topette. Bon courage pour la soirée du 22 février. Camille? J'ai failli t'appeler Mathéo, tiens.
D'accord.
Bonne soirée, Camille.
Ouais, bonne soirée, Pierre Benoît.
Lundi, dans deux semaines, Bruno.
Tu m'as pas appelé Nolwenn, tiens.
Il y a quand même une sacrée différence. Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir été là vous aussi ce soir. On se retrouve donc lundi avec la salle culturelle, l'espace culturel des quartiers, de la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. Et on se quitte ce soir donc en poésie avec le spleen de Manon.
Bonjour ou bonsoir, suivant l'heure. Suivant le moment, suivant le temps. Et si tu appuyais sur pause, avant que ta tête explose, avant de devoir te mettre à la recherche du temps perdu, vainement, car le temps perdu, c'est foutu. Il est perdu à vie. Alors remplis ce temps de belles choses, oui. Écoute Bach, écoute Chopin, lis Proust, Maupassant, Baudelaire. Ne prends que le meilleur des êtres dits humains, avant qu'on foute tout en l'air. Ne t'ancre pas dans tes habitudes. Pas besoin d'ancrage ni de port d'attache. Après tout, tu n'es pas un bateau. Sois avare de peur et avide de savoir. Lis, bouge, tombe, marche droit, tête haute, regarde les cailloux, regarde les fleurs, lève la tête, regarde les mouettes. Tu es une mouette, libre, indépendante, ricanante, chantante, chancelante, entêtante. Ferme les yeux, respire, ouvre les yeux, esquisse un sourire. Tu es la Joconde. Imperceptible, tu vaux 1 milliard. Enchaîne-toi, oui, mais enchaîne-toi à ta soif de liberté. Sois un puits sans fond, oui, un puits sans fond de nouveauté. Sois routinier dans ton envie de changement. Sois pressé de prendre ton temps. Précipite-toi doucement. Avance à reculons, pourquoi pas. Cours à petits pas. Hausse le ton en chuchotant. N'oublie pas de dire je t'aime. Mais je t'aime à qui? Mais à toi, pardi. Serre-toi fort, serre tes poings. Desserre les dents et ris. Ris, bordel, ris. Car ils pourront tout nous enlever, mais pas ça. On peut rire sans les mains, sans les yeux. On peut même rire sans les dents, alors ris. Tu verras, le temps ne se perd jamais dans le rire.
C'est tout.